franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
En compagnie aujourd'hui du fou volant de Radio France, j'ai nommé...
Michel Polaco, bonjour.
Bonjour Michel Polaco, on vous a décapsulé pour une demi-heure du Salon du Bourget, le Salon du Bourget qui bruit de contrats et sur lequel nous allons faire planer l'ombre de drôles de machines.
Futur allié de la police, soutien d'envergure, il est plus grand que la 380 et surtout truffé d'électronique et d'équipement vidéo. Mouvement de foule... Protection de zones sensibles, interception de communications radio, ces applications sont infinies.
C'est qui ?
C'est un ballon, on peut l'imaginer, puisque c'est le sujet du jour.
C'est même peut-être, Michel Polaco, soyez un bon élève, un dirigeable. Le sujet du jour, c'est en effet aventure. Et mes aventures, des dirigeables, parce qu'il y a les plus lourds que l'air, que vous connaissez bien, mais il y a les plus légers que l'air, qui vous ont fait rêver dans votre enfance. Il y a les vainqueurs, il y a eu les vaincus. Dans les années 1920, les dirigeables avaient perdu la bataille militaire déjà, mais en ce qui concerne la navigation civile, ils faisaient encore bonne figure face à l'avion, face au paquebot. Alors comment, au bout d'un moment, du fait de la concurrence, du fait d'une cascade d'accidents, je ne sais, le progrès technique n'embrait-il plus ? Les succès, c'est intéressant, mais l'analyse des impasses aussi. L'aviation, vous connaissez bien, c'est du cumulatif. Si vous le permettez, on va faire aujourd'hui le récapitulatif du ballon au dirigeable. J'aurais dû peut-être inviter un marin, au fond.
C'est vrai que tous ceux qui volent aujourd'hui relèvent quand même à l'origine de la marine, puisque les premiers navigateurs, c'était des marins. Et aujourd'hui, dans nos avions, on vole en nœud, hein, qui est une mesure de vitesse de marin. Et on avance sur des nautiques qui sont des mesures de distance de marine. J'ai connu dans les avions et d'ailleurs dans les ballons, hein, c'est comme ça qu'ils naviguaient aussi, les pilotes de dirigeables, des sextants et des coupoles qui permettaient aux équipages, commandants de bord, copilotes, navigateurs, radio-navigateurs, etc., de regarder les étoiles avec un sextant. Donc c'est vrai que tout ce qui vole aujourd'hui doit beaucoup aux marins.
Alors, au commencement fut le ballon. Alors, le ballon, c'était en France, par exemple, autour des montgolfiers, un objet de communion universelle. On rassemblait un grand public aux Tuileries, à Saint-Cloud. Pendant la Révolution française, tous les regards convergeaient vers le ballon qui s'envolait. Et évidemment, vous me parlez tout de suite de bataille, parce qu'il n'y a pas d'histoire technique sans histoire militaire. Alors, le ballon à Fleurus, le ballon dont Bonaparte pense qu'il pourrait peut-être permettre... d'envahir l'Angleterre.
Oui, alors Bonaparte n'était pas vraiment... Pourtant, on a toujours dit qu'il avait protégé les sciences, mais Bonaparte n'était pas vraiment un protecteur du ballon. Et souvenez-vous, il a refusé le sous-marin, il a refusé le tunnel sous la Manche. Pas tellement. Mais en revanche, les révolutionnaires français, en 1794, ont utilisé un ballon qui s'appelait, je ne sais plus, l'Intrépide, je crois, et qui servait à... observer les Autrichiens qui faisaient le siège de Maubeuge. Et c'est à cette occasion qu'on a utilisé pour la première fois un ballon à air chaud, plutôt à gaz, un ballon à gaz, enfin un ballon non dirigeable pour une opération militaire.
L'utilisation militaire la plus spectaculaire du ballon, c'est après la chute du neveu Bonaparte, c'est pendant le siège de Paris. 1870-71.
Le ballon, donc, toujours ballon à gaz ou ballon à air chaud, hérité de la montgolfière ou du ballon des frères Charles et Robert, va vivre sa vie et servir en fait à faire des démonstrations. C'est un peu un outil de cirque. Garnerin va utiliser le ballon pour faire des démonstrations de saut en parachute. Il fera sauter sa femme, sa fille, il fera sauter tout le monde et il va être l'homme qui va inventer le parachute. On va faire du baptême de l'air en ballon dans les années 1850 pendant l'exposition universelle de 78, je crois qu'on a baptisé 35 000 personnes en ballon. Mais dans les années 50, déjà, on commence, 1850, on commence à faire beaucoup de baptême de l'air. Guerre de 70, on n'a toujours pas réussi à trouver un moyen pour piloter ce ballon qui va au gré des vents, là où il peut. Mais néanmoins, pendant le siège de Paris, On a Gambetta, le chef de gouvernement, qui souhaite quitter Paris pour pouvoir organiser la défense, puisque la ville est assiégée. Il va s'envoler de Montmartre avec un ballon. À cette époque-là, on appelle ça les ballons du siège de Paris ou les ballons montés. On évacue le courrier, on évacue quelques personnalités comme ça. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas toujours là où on voudrait. Gambetta allait à Tours. Bon, son ballon est allé à peu près dans la même direction. Mais certains des messages qui lui étaient adressés lui sont arrivés de Norvège, parce que le ballon décollait de nuit, partait sur la mer du Nord et arrivé en Norvège 3-4 jours après. Et ensuite, il fallait rapatrier les messages. Ces ballons allaient là où ils voulaient. Donc on a quand même vu et la grandeur et l'insuffisance du ballon non dirigeable.
Vous seriez dans les années 50, je veux dire 1950. Michel Polaco, vous feriez des entretiens pour Radio France, non pas avec Michel Serres, mais avec un autre philosophe à fort accent et à forte incarnation populaire, celui qui a beaucoup réfléchi sur l'air et le feu, j'ai nommé Gaston Bachelard, qui parlait ainsi des ballons d'après 1870.
Quand nous relations les efforts des aéronautes français pour rompre le blocus du siège de Paris, nous avons dit les essais de ballons dirigeables. Dès février 1872, ces essais sont repris. Le Dupuis de l'Aume, du nom de l'aéronaute qui l'avait établi, prit l'air avec 14 passagers. On reconnut l'influence de l'hélice et du gouvernail, mais malheureusement, l'énergie propulsive était insuffisante. Elle ne permettait qu'une vitesse de 10 km à l'heure. L'aéronaute espérait quand même, en le voyant, obtenir un voyage dirigé. On le voit, le temps des voyages aériens n'était pas encore venu. L'accès aux altitudes élevées manquait alors des moyens de sauvegarde dont dispose actuellement l'aviation stratosphérique.
Alors, Maître Gaston utilise le mot dirigeable.
Oui, parce que à un moment donné, on réalise que c'est pas possible de ne pas arriver à décider de sa destination. Et donc, on essaye d'utiliser les moyens du bord. Alors, les moyens du bord, il y en a qui vont envisager de mettre des chevaux dans les nacelles à bord des avions pour faire tourner. Vous voyez, des hélices, parce qu'on n'a pas de moteur. On va essayer le moteur à vapeur. On va essayer, évidemment, le ballon à pédale. On va essayer plein de choses. Et puis, finalement, le moteur à vapeur, il ne va pas non plus. Il y a eu des essais avant 1870. Le moteur à vapeur ne va pas non plus. Et c'est l'arrivée du moteur électrique et du moteur à piston qui vont permettre de débloquer la situation. Même le moteur électrique, Tissandier, 1875, fait voler son ballon avec un moteur électrique. Il avance très lentement. Il emmène des batteries au chlore et au chrome qui sont extrêmement lourdes. 350 kg de batterie, je crois, pour arriver à tenir l'air pendant une heure ou deux. Donc c'est insuffisant, donc c'est le moteur à piston qui va faire la différence. Le problème, c'est qu'en même temps qu'il va arriver pour le ballon, début des années 1900, il va arriver pour l'avion.
Alors ce sont un peu les mêmes qui vont tâter du ballon et de l'aviation 1898. Le dirigeable intéresse un jeune homme qui vit en frac, sous une casquette de toile avec un col dur très haut. Brésilien d'origine.
Santos Dumont, Alberto Santos Dumont. Voilà, c'est un homme qui a du génie. En plus, il adore la France. Il est d'ailleurs d'origine française par certains de ses parents. Et il vient en France où il va être l'homme qui va développer le ballon. Ça appartient à l'époque où c'est le ballon à air chaud déjà, ou à gaz appartient à une certaine noblesse. L'aéroclub de France a été créé en 1898. Dans les bonnes familles, on aime s'essayer à voler dans le parc de Saint-Cloud. Eh bien, lui, c'est du parc de Saint-Cloud qu'il va partir en 1901 avec son dirigeable numéro 6.
Pour aller
et avec
Tour
lequel
Eiffel.
Il va aller jusqu'à la Tour Eiffel, et ce qui va lui permettre de remporter le prix qui avait été promis par un groupe de presse important, Deutsch de la Meurthe.
Voilà. Une demi-heure aller-retour. Mais enfin, au bout d'un moment, après beaucoup d'exploits, de performances qui le rendent très populaire, il dit que c'est aussi difficile de faire du dirigeable que d'enfoncer une carotte dans un mur de briques, et il va se convertir à l'aviation. C'est très fréquent chez les fous volants de l'époque de voir comme ça le passage d'un genre à l'autre. Beaucoup d'allers-retours, les techniques se chevauchent, se tuilent. Voici par exemple Pierre de Broutel, interrogé beaucoup plus tard par la radio. Avant la guerre de 14, il a fait de la bicyclette, de la motocyclette, de l'automobile, du dirigeable et de l'avion.
Ayant 15 personnes à bord, lors de la sortie d'un dirigeable semi-rigide de 10 000 m3, au moment donné, j'ai eu la surpression. Nous étions à 100 mètres d'altitude et à 100 km à l'heure, il fallait soupaper. J'actionnais les commandes de 4 soupapes qui s'ouvrirent bien mais refusèrent de se refermer. Il ne fallait pas perdre de temps. J'ai mis la main du pilote qui se trouvait près de moi sur le volant sans avoir eu le temps de lui dire ce qu'il se passait, puis je suis monté rapidement à l'étage supérieur, décoincé les soupapes. Pendant ce temps, le ballon se vidait et il faisait des montagnes russes désagréables. Puis, après mon intervention, tout rentra dans l'ordre et je pus atterrir sans incident. Au cours de ce coup de chaleur, j'ai réussi la plus forte émotion de mon existence.
Ben oui, le dirigeable, ça ressemble à un bateau, il faut monter dans la voilure. Comment ça se présente d'ailleurs,
Alors, vous avez plusieurs catégories. Hein. Vous avez des rigides, des semi-rigides et des mous, si on peut dire. Les rigides, ben, vous avez une infrastructure qui peut être en bois, qui peut être en aluminium. Il y en avait beaucoup qui étaient en aluminium ou en duralumine. Et cela, c'est une enveloppe de tissu, de coton, vernis généralement, avec à l'intérieur des ballonnets. Vous en avez d'autres qui sont un seul ballon, lui-même gonflé, comme du caoutchouc. Par exemple, les fameux ballons d'Albert Caco, c'était ça. Et c'est le fait qu'ils sont gonflés qui leur donne leur forme. Donc vous avez plusieurs catégories de ballons. Évidemment, les uns et les autres offrent des sécurités différentes selon qu'ils sont formés de nombreux ballonnets ou d'un seul ballon qui peut, dans certains cas, évidemment, être détruit ou se détruire.
Alors,
et puis, ils sont
gonflés
avec de l'hydrogène. Oui. Et alors ça, vous savez, c'est d'une grande complexité parce qu'il fallait emmener sur place les machines à fabriquer l'hydrogène. On fabriquait ça au début en versant des acides sur des métaux ou de la limaille de fer. Ensuite, on a su faire la synthèse, plutôt l'électrolyse de l'eau. Mais enfin, dans tous les cas de figure, c'était quand même assez compliqué. Et c'est vrai que l'arrivée de l'hélium, très cher, a apporté beaucoup. Sachant quand même que l'hydrogène ou l'hélium sont des gaz qui sont 14 fois plus légers que l'air. Et c'est pour ça que ces ballons gonflés avec ce gaz, avec des volumes absolument gigantesques, arrivaient à emporter une masse qui était à peu près équivalente à la différence qu'il y avait entre la masse d'air et la masse d'hélium qu'il y avait dans le ballon.
De Broutel travaillait pour la société Zodiac, il y avait plusieurs sociétés en France, avec des bases d'aérostations, il y en avait une quarantaine en France à un certain moment.
Des hangars immenses parfois, dont deux sont classés monuments historiques. Meudon, Orly, ouais. Qui ont disparu par contre. Ouais,
mais parlons un peu de l'Allemagne, d'autant qu'en Allemagne, il y a une grande société qui s'appelle Zeppelin, et il va vous intéresser, le comte Ferdinand von Zeppelin, parce que c'est un général de cavalerie, et lui, il pense que le dirigeable, il n'est pas là pour faire du cirque, pour reprendre votre expression, Michel Polacco. Il œuvre pour la nation. Enfin bref, il a des destinations militaires prioritaires.
Ben oui, c'est évident parce qu'en cette époque très douloureuse, vous savez, il y a eu la guerre de 70, la guerre de 14. Zeppelin a compris qu'effectivement, il y a quelque chose à faire qui permettra aux armées de se déplacer et surtout d'aller observer le champ de bataille en face, voire d'aller le bombarder, puisque rapidement, on va emmener des fléchettes d'abord, puis on va emmener des bombes. Et donc, Zeppelin va développer ses ballons, qui sont des ballons rigides, qui vont participer à la guerre de 14. En même temps que les Allemands vont développer les Draken, ils vont construire 1800, qui sont des ballons captifs attachés par des câbles, mais à bord desquels il y a des observateurs. Et ces pauvres observateurs, en dessous de leur ballon d'hydrogène, sont souvent les victimes de tirs des premiers avions. Donc vous voyez, c'est la première époque de la guerre où on va voir s'affronter des avions et des ballons, et c'est l'avion qui va gagner, puisque évidemment, l'avion peut détruire facilement le ballon qui, lui, n'est pas vraiment en mesure de se défendre. Donc la guerre de 14 va être la guerre de la défaite du ballon militaire.
C'est le test pour le dirigeable militaire. 78 Zeppelins ont été engagés pendant la Grande Guerre.
52
ont été détruits. Et puis alors, 40% des effectifs sont morts pour peu de pertes infligées à l'ennemi, parce que l'imprécision demeurait.
Oui, l'imprécision demeurait, et puis il faut dire que les équipages à l'époque n'avaient pas, au début en tout cas de la guerre de 14, n'avaient pas de parachute. Ensuite, quand on a vu que les équipages de ces ballons étaient très souvent en situation épouvantable, puisque leurs ballons prenaient feu et ils descendaient avec leurs ballons en feu, on a décidé de les équiper de parachutes. C'est là que Garnerin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui dès l'ascension du ballon en 1783 a commencé à développer le parachute, bien c'est là que l'œuvre de Garnerin a servi et qu'on a développé le parachute, qui aujourd'hui est devenu quelque chose de banal, mais qui permettait aux premiers équipages de ballons de descendre, alors que les aviateurs se refusaient à emmener un parachute avec eux.
Ici, un film de Tony Bill de 2006, des Américains qui sont venus défendre la France en 1917, ils sont membres de l'escadrille Lafayette, s'apprêtent à attaquer depuis donc leurs avions un Zeppelin allemand qui veut bombarder Paris.
Messieurs, il y a un changement de programme. on nous envoie une petite surprise. Un zeppelin allemand est en chemin pour bombarder Paris. Comme vous le savez, nos pilotes français et britanniques sont engagés à Pont-à-Mousson. Donc, Rawlings, Lorry, Skinner et Porter devront partir à la poursuite du zeppelin. Armez vos mitrailleuses de balles incendiaires. Il faudra en tirer des centaines pour abattre un zeppelin.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Michel Polaco, que j'ai habillé aujourd'hui en capitaine de frégate pour parler des dirigeables. Les dirigeables qui naviguaient dans l'air, comme les bateaux sur les mers. Alors, après l'échec pendant la Grande Guerre du dirigeable militaire, restent les rêves pacifiques pour le dirigeable civil. Chez les Italiens, chez les Américains, on va parler de nouveau des Allemands, des Français et aussi des Britanniques. On peut survoler en dirigeable le désert, les pôles, rêver de faire le tour du monde.
Alors, on peut dire un mot sur le Dixmude, qui était un dirigeable zeppelin hérité de la Grande Guerre, puisque après la défaite de la guerre de 14-18, les Allemands ont été condamnés à des dommages de guerre et ils ont donc été condamnés à offrir à la France trois dirigeables importants, des zeppelins. Et l'un d'eux, qui a été baptisé par les Français le Dixmude, mesurait 226 mètres de long, hein, c'était quand même pas rien, a battu plusieurs records de vitesse et de distance, surtout de distance et d'endurance plutôt que de vitesse, et il a disparu en Méditerranée en 1923, commandé par le capitaine de vaisseau du Plessis. Donc vous voyez, c'était un marin. Et les marins croyaient encore à cette époque à l'utilisation pour l'observation ou le transport, mais certainement plus à l'usage dans le cadre du combat. Ça
veut dire
que c'était abandonné.
L'usage pacifique.
Voilà.
Zeppelin, la société a été réduite à fabriquer des casseroles au lendemain du traité de Versailles, mais après on lui donne de nouveau l'autorisation.
Alors là, les avions ne sont pas performants du tout à cette époque-là. Voilà. Les avions sont incapables de transporter plus que 3, 4 ou 5 passagers.
Tandis que le grave zeppelin.
Voilà, le grave zeppelin peut transporter jusqu'à 98 personnes. Et ce géant des airs, comme le Hindenburg, qui va faire 127 traversées de l'Atlantique, qui va faire deux tours du monde, en tout cas cette catégorie de ballons, va permettre d'emmener beaucoup de passagers. Et c'est vrai que ça avait l'air de se passer plutôt bien.
C'était confortable.
On a cru qu'on avait inventé le nouveau paquebot, le paquebot des airs. Et pendant un temps, on a vraiment été persuadé que c'était le nouveau moyen de transport.
Et le grave zeppelin, il pouvait même faire une liaison régulière, Francfort, Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro et Francfort, New York. Puisqu'il le faisait régulièrement.
Et du côté des Anglais, on se dit qu'on peut faire la même chose. Et c'est le temps, 2 ans après le lancement du Graf Zeppelin, du R-100, qui en juillet 1930 joint Londres à Montréal en 79 heures avec 44 passagers et en bas l'attendant, la fameuse chanteuse québécoise, la Bolduc, on va l'écouter, elle parle du R-100. Hein, t'as mis ta chemise à l'envers? Non, il faut mettre ta chemise à l'endroit. Tu viens avec moi à l'aéroport Saint-Hubert. On va voir leur sang.
Viens-tu avec moi son père au volet à Saint-Hubert? Va droit l'étage humain, puis au volet voir leur sang. Mais regarde-moi dans tes noirs, t'as mis ta chemise à l'envers. Il y a un trou dedans qui est aussi grand que leur sang. M'a changé de nom, petit Jean, puis m'a tatelé l'air sans. Petit rouge l'air sans, petit gus l'air sans, petit pite l'air sans. Moi, je trouve ça du bon sang. C'est les culottes l'air sans, les pyjamas l'air sans, brassière l'air sans, vertière l'air sans. Tout le monde parle de l'air sans. Mais voilà, tu es plus clair, tes culottes sont devant derrière. Quand même qu'on est habitant, faut montrer qu'on a du bon sang. Va donc mettre ton prince Albert pour aller à Saint-Hubert. On partira le cœur content, pareil comme deux jeunes amants. M'a changé de nom, mon Jean, puis m'a tapé l'air sang. Petit rouge l'air sang, petit pite l'air sang, petit gus l'air sang. Moi, je trouve ça du bon sang. C'est les culottes l'air sang, les pyjamas l'air sang, brassière l'air sang, la pierre l'air sang. Tout le monde parle de l'air sang.
La Bolduc, juillet 1930, patatras, octobre 1930, le frère cadet du R-100, du R-100, le R-101, plus lourd, hein, on a même mis de la moquette sur le plancher, puis on a embarqué
trois caisses
de champagne.
On a tiré le passager.
Survol Beauvais et patatras.
Voici tout ce qui reste. Le dirigeable anglais R-101. Quelques minutes avant de s'écraser là, l'aéronef survolait Beauvais à faible altitude. Les habitants, réveillés par le vrombissement de ses moteurs, le contemplaient tandis qu'il glissait lentement, tout illuminé dans la nuit sombre et pluvieuse. Tout allait bien à bord. Outre les 42 hommes de l'équipage, il y avait 16 passagers. La plupart s'étaient endormis confiants. On peut recréer par l'imagination la scène atroce. Le choc de la chute brutale, les explosions des masses d'hydrogène, l'incendie enveloppant soudain les cabines fracassées. On peut imaginer l'atroce agonie de ces hommes enfermés dans l'inextricable chaos que vous voyez là, inertes et déjà refroidis, comme en une double cage de fer et de flammes. C'est le plus effroyable naufrage aérien que l'on ait enregistré dans les annales de l'aéronautique mondiale.
48 morts, la plus effroyable catastrophe.
Oui, alors vous voyez 42 membres d'équipage pour 16 passagers. Vous voyez la quantité de membres d'équipage qu'il fallait. Ces ballons ne pouvaient pas se poser comme ils le voulaient. Alors encore plus de nuit, bien sûr, mais même de jour, parce qu'il fallait à l'époque des centaines d'hommes au sol pour pouvoir les aider à s'arrimer. Il fallait que les vents ne soient pas trop forts, sinon ils étaient obligés de rester en l'air jusqu'au moment où les vents baissaient. Et puis ils étaient très fragiles face à certains événements météorologiques comme la foudre, puisque l'hydrogène est quand même très explosif, très fragile face à la foudre et fragile face au givrage. Je ne parle pas des moyens de navigation qui, à l'époque, n'existaient quasiment pas.
Néanmoins, en 1931, Zeppelin, la société Zeppelin, ça fait longtemps que le comte général de cavalerie est mort, c'était en 1917 qu'il a disparu, lance un dernier programme gigantesque, le Hindenburg, qui va aboutit en 1936, les nazis sont déjà au pouvoir. Et là, c'est un gigantesque
le fleuron du Reich
qui survole l'Allemagne pour faire de la propagande au moment du référendum de 1936 en particulier, mais qui doit joindre les États-Unis. Et il le fait d'ailleurs avec beaucoup de succès pendant plusieurs voyages en 1936.
Voilà. Oui, absolument, avec une très grande régularité. Je vous ai parlé tout à l'heure de plus d'une centaine de voyages. Et c'est vrai que les Allemands étaient très en avance en matière de ballons dirigeables. Très en avance sur les autres pays. On construisait des dirigeables en France, on en construisait au Japon, on en construisait aux États-Unis. Mais les plus grands, les plus gros, les plus aboutis étaient les dirigeables allemands. Le seul problème des Allemands, c'est qu'ils n'étaient pas capables de fabriquer, de produire plutôt de l'hélium, qui est un gaz rare. Et donc, ils étaient obligés d'utiliser de l'hydrogène, que les Américains refusaient de leur vendre de l'hélium parce qu'il y avait un embargo vers le régime allemand de l'époque. Et que cet hydrogène était quand même une fragilité terrible. Aujourd'hui, on n'accepterait jamais de faire voler un aéronef ou d'emmener des gens dans un endroit où il y a des grandes quantités d'hydrogène.
On pouvait fumer sur le Hindenburg.
On pouvait fumer.
Et simplement, c'était le majordome qui allumait le briquet.
Oui. Mais on fumait quand même pas dans le ballon. On fumait dans la nacelle, dans l'une des nacelles qui était sous le ballon.
Premier vol de 1937, après les succès de 1936, et l'arrivée dans le New Jersey tourne mal.
Il commence à pleuvoir de nouveau. La pluie s'était un peu calmée. Les moteurs arrière du vaisseau le maintiennent juste assez pour l'éloigner. Il brûle et il est en train de tomber. Il tombe, regardez tous, éloignez-vous. Prends-le, Charlie, prends-le. Il est en feu, il s'écrase, c'est horrible.
Le grave Zeppelin, le dirigeable précédent, était en vol. Il faisait Rio-Francfort. Les passagers ne sont avertis qu'après le débarquement. Le grave Zeppelin lui-même ne décollera plus jamais.
Non, c'est fini. L'aventure du Zeppelin est terminée. Cette catastrophe a été trop marquante. Mais il faut dire, et vous l'avez entendu, qu'on est déjà presque aujourd'hui en termes médiatiques. La radio est en direct. Il n'y a pas la télévision, évidemment, à l'époque. Toute la presse est là, car c'est toujours un événement, l'arrivée du ballon. Et l'histoire du ballon, d'ailleurs, est constellée d'événements médiatiques. N'oubliez pas que les premières photos prises du ciel, c'est Nadar qui a fait les premières photographies du ciel, que les ballons ont servi servi à afficher de la publicité, que le ballon a toujours été dans l'univers des médias. Et il en est victime, puisque en 1937, la une de l'illustration que j'ai encore dans les yeux, que vous avez peut-être vu, l'illustration de 1937, avec les croquis, les dessins superbes d'ailleurs qui ont été faits, de l'accident de Beauvais ou ensuite du Hindenburg, font que les opinions publiques sont complètement traumatisées.
1940, Göring ordonnera la destruction des derniers Zeppelins. Et en 1944, les installations de la société Zeppelin à Friedrichshafen, c'est à côté de Francfort, seront rasées par les bombardements alliés. Et pourtant, les Zeppelins, ça existe encore. Et oui. On dit que la messe n'est pas dite. Un site auquel peuvent se référer nos auditeurs, objectif.dirigeable.com, et beaucoup d'expériences là sont racontées. Alors, vous allez beaucoup au Salon du Bourget, c'est aussi silencieux, un dirigeable moderne que l'A380, ça peut rester en position immobile comme les hélicoptères
pas
que
tout
vous
à
défendez,
fait. Pas tout
et
à
puis
fait.
Ça peut être l'objet d'une automatisation complète,
bien
comme
sûr.
Les drones que vous défendez.
Bien sûr, non, mais je ne défends et n'attaque rien. Simplement, je pense que chaque instrument, chaque outil peut avoir sa place. Le ballon dirigeable a sans doute raté l'étape du transport de passagers, comme l'hydravion a raté cette étape, il ne faut pas l'oublier. En revanche, il a des niches importantes dans lesquelles il a certainement des chances d'exister. Mais ce sont des niches importantes car il faut s'affranchir de phénomènes météorologiques, il ne faut pas avoir de préoccupations de vitesse, il faut avoir un certain nombre de spécifications pour lesquelles il est le meilleur.
Exemple, transport de charges lourdes. On se disait il y a une trentaine d'années que les pièces des centrales nucléaires pourraient être transportées comme ça. Les pièces de l'Airbus, on parle du Salon du Bourget aujourd'hui. Journal télévisé,
oui.
2009.
Deux énormes entrepôts au milieu de la campagne anglaise. Aujourd'hui, les dirigeables géants qu'ils abritaient ont disparu. Mais à leurs pieds, un étrange appareil, mi-ballon, mi-avion, peut-être la future révolution du transport aérien. C'est plus facile à piloter qu'un avion. C'est très stable quand ça avance et vous n'avez pas à réfléchir. SkyCat, c'est son nom, est conçu pour transporter de lourdes charges sur longue distance. Le premier véritable modèle sera trois fois plus gros que celui-ci et emportera un pilote. Mais ses concepteurs ont déjà imaginé une gamme qui ira jusqu'à 250 mètres de long, capable d'emporter 1000 tonnes de matériel tout en consommant moins de carburant.
Ces émissions de gaz à effet de serre représenteront un dixième de celles des avions classiques. Cela va devenir de plus en plus important.
L'autre avantage, que vous pouvez décoller et vous poser partout, sans avoir besoin de construire un aéroport.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est mi-ballon, mi-dirigeable, mi-avion.
Je ne rentrerai pas dans la polémique entre les défenseurs acharnés du ballon ou les ennemis acharnés du ballon. Je pense que ce serait injuste. Le ballon a un rôle. Et puis, il appartient aussi à un rêve. Il a porté des rêves et il en porte encore des rêves. C'était un bel objet. C'était une réalisation ingénieuse et intelligente humaine. Certainement, il aura encore un rôle à jouer. Maintenant, pourquoi vouloir lui faire jouer le rôle du métro ou du transport aérien d'aujourd'hui? Ça, je pense que c'est une erreur. Mais il a certainement un très bel avenir et ça reste quand même un très bel objet.
Mais il fait innocent et propre parce qu'il est débarrassé de ses utilisations militaires. Ne pas oublier les utilisations policières possibles.
Oui, mais d'ailleurs, on a utilisé au mois de mars à Paris, on a utilisé un ballon pour mesurer les taux de radioactivité afin d'étalonner la radioactivité pour le cas où il y aurait un problème. En 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française, on a utilisé des ballons pour faire de la surveillance de sécurité. Bien sûr, ils peuvent avoir des rôles à jouer comme ça. Simplement, faut-il qu'on arrive à un niveau qui soit économiquement viable pour les constructeurs de ballons.
Merci à vous, Michel Polacco. Merci à l'équipe de la Marche de l'Histoire. Jacques Sigal, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Franck Olivard qui a préparé cette émission. Merci à Martin Penet d'avoir repéré la Bolduc du haut des ballons et des dirigeables. Ce n'est pas toujours facile de faire les repérages, les dirigeables qui peuvent avoir des usages publicitaires aussi.
Interception du palais dans le camp adverse, il tire, c'est dedans. La France est championne olympique de hockey sur glace aujourd'hui, 20 février 2018, ici au pied du Mont Blanc.
Pour que le rêve devienne réalité, nous avons besoin de vous maintenant. Le 6 juillet prochain sera choisie la ville qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2018. Soutenez la candidature sur annecy2018.com. Annecy 2018, la neige, la glace et vous.
Radio France, supporter d'Annecy 2018.
Attention, vendredi dernier, le jackpot Euro Million n'a pas été gagné. Ce mardi, il atteindra près de 101 millions d'euros.
Voir règlement sur fdj.fr.
Euromillion, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Allô ? Le conseiller Gaz de France Dolcevita ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Voilà, je déménage et je vais encore me perdre, moi, avec mes différents contrats.
Ah, pas forcément. Non seulement on peut se charger de votre contrat de gaz naturel, mais aussi de votre contrat d'électricité. Avec Gaz de France Dolcevita, une seule facture pour vos deux énergies.
Ah bah oui, ça m'arrange.
Et en plus, les frais de mise en service sont offerts jusqu'au 31 juillet.
Alors ça, c'est gentil.
Offre soumise à condition. Appelez le 0800 228 229. Appel gratuit depuis un poste fixe.
Gaz de France Dolcevita, une marque de GDF Suez.
L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Voilà, sur notre site, le podcast, les indications concernant les sites et les associations qui défendent, comme Michel Polaco, le voici converti, le dirigeable. Tout à l'heure, dans l'émission de Mathieu Vidard, Serpent et Venin, diable. Et vous partez enseigner à une école maternelle, Michel Polaco, il est 14h.